Donc Pierre, je travaille à la CIMAD à Toulouse. Je vais vous présenter assez rapidement la CIMAD et ses actions, avant d'élargir un peu pour laisser la parole à Momo. Je vais faire un bref historique parce qu'il me semble que c'est important de comprendre comment s'est créée la CIMAD et pourquoi elle s'est créée, pour mieux comprendre comment on intervient aujourd'hui, y compris pourquoi on intervient encore, par exemple, dans des centres de rétention, alors qu'il s'agit aujourd'hui d'un marché public des droits de l'homme. Et ça me paraît important de préciser cela. Je vous rassure, je vais prendre un peu de temps sur cette période de création, et je ferai un gros saut dans le temps pour éviter d'être trop long. La CIMAD, c'est une association qui se crée en 1939, donc dans un contexte que vous imaginez. Et elle se crée, au départ, c'est une association qui va intervenir pour des raisons exclusivement religieuses, c'est-à-dire que c'est des mouvements de jeunesse protestants qui vont s'unir pour intervenir auprès d'une population protestante déplacée, en l'occurrence des Alsaciens, qui vont en quelques jours, en trois jours exactement, être évacués de la zone de guerre entre la ligne Maginot et la frontière allemande. Il y a notamment la ville de Strasbourg qui se trouvait là, et qui tous les villages et la ville de Strasbourg vont être évacués en trois jours. Donc ces personnes se retrouvent sur la route et vont être amenées en particulier dans le sud de la France et dans le sud-ouest, accueillies par les populations, par plus ou moins par l'État, et plus ou moins bien. Et à ce moment-là, ces mouvements-là se disent: on va aider nos frères et sœurs protestants, hein, c'est vraiment une idée religieuse au départ, dans ce contexte difficile. Puisque une partie de cette population va être quand même, si beaucoup de populations locales vont les accueillir cordialement, il y a un problème qui va rapidement se poser, c'est le problème de la langue, puisqu'ils parlent alsacien, et que ça a tendance à ressembler fâcheusement à l'allemand, ce qui n'était pas forcément très bon à ce moment-là, et donc il va y avoir quand même des situations assez conflictuelles. Donc ces mouvements s'organisent, interviennent auprès de ces personnes pour les aider, trouver du travail, etc. Et très rapidement, on entre dans une phase où les premières arrestations d'opposants politiques, d'étrangers, de tziganes s'organisent, et c'est une période où on voit émerger dans beaucoup de lieux dans le sud-ouest des camps d'internement administratif où vont être enfermés tout un tas de personnes. Et là, on franchit un cap au niveau de cette association, c'est-à-dire que les personnes qui s'étaient mobilisées sur cette réflexion-là entrent dans une réflexion beaucoup plus, j'allais dire politique, mais à l'époque c'est plus de solidarité, en disant: on ne peut pas, l'État ne peut pas se donner la permission à un moment donné de priver de liberté des personnes parce qu'elles ont une opinion politique différente, parce qu'elles ont une origine différente. Voilà. Donc la CIMAD va intervenir en fait dans ces camps d'enfermement avec des équipiers qui vont intervenir pour aider les personnes et surtout pour témoigner de ce qui s'y passe. Parce que à l'époque, on voit ces lieux qui poussent, on voit des miradors. Je suis intervenu il n'y a pas très longtemps à Gaillac, et c'est intéressant de voir que très peu de personnes savent que le bout de truc en ciment qu'ils voient de l'autre côté du Tarn, c'est un mirador du camp de Brenz qui s'est créé en 1941, un camp de femmes. Et aujourd'hui, on ignore encore toute cette histoire de l'enfermement, et qu'un rapport direct avec les centres de rétention, même si le contexte est différent. Donc, une volonté de témoignage de ce qui se passe dans ces lieux de privation de liberté, sans aucun contrôle judiciaire, de juge, etc. On est dans un contexte de guerre. Et donc, il y a ces pratiques qui se développent. Donc, la CIMAD y intervient. Et après, avec on avance un peu dans le temps, et les premiers placements des populations juives, des personnes à qui on enlève la nationalité française, notamment je pense à toute une partie, beaucoup de jeunes communistes à Toulouse qu'on déchoit de la nationalité et qu'on va enfermer dans ces camps-là, et va commencer à organiser des filières d'évasion, notamment de jeunes enfants vers le Chambon-sur-Lignon, puis dans la Loire, puis vers la Suisse. Donc, on voit une évolution, au départ, intervention très religieuse, puis qui vient vers ce qu'on qualifie de solidarité active et de témoignage, et politique, donc, évidemment. Ensuite, la CIMAD va évoluer en fonction des contextes. Hein. Fin de la guerre, elle va œuvrer avec d'autres associations pour la réconciliation franco-allemande, œuvrer auprès des peuples qui luttent dans le cadre des luttes pour la décolonisation, avec notamment tout un travail dans les camps, encore une fois, les camps d'internement en Algérie, les camps d'opposants, avec une intervention directe dans ces lieux-là. Et puis, dans les années, fin des années 60, début des années 70, toute une intervention auprès de l'accueil des réfugiés, puisque c'est le début de l'asile politique en France. La Convention de Genève est ratifiée en 51, transcrite dans le droit français en 52, et donc il y a les premiers réfugiés qui arrivent, donc des dictatures d'extrême droite d'Amérique latine, puis des dictatures communistes de l'Est, donc un travail d'accueil de ces réfugiés. Et là, je passe rapidement, hein, on pourra revenir si ça vous intéresse sur ces périodes-là, mais avec un changement assez important au début des années 80, fin des années 70, début des années 80, où l'association va décider, alors qu'on est dans un contexte de fermeture des frontières, de remise en cause de l'accès au marché du travail des étrangers, du regroupement familial, des étrangers qui travaillent là depuis des dizaines d'années, à qui on commence à interdire de faire venir leur famille, de jouer d'une vie familiale normale. Et là, l'association a décidé de s'emparer de faire un choix, s'emparer de l'outil juridique, et donc de se spécialiser d'une certaine manière dans le droit des étrangers et dans le droit administratif pour conseiller les personnes et essayer de faire évoluer ce droit tout en gardant cette volonté de témoignage. C'est-à-dire en accueillant les personnes et en essayant de témoigner ensuite du décalage qui pourrait exister et qui existe de fait entre l'affichage politique et les ambitions politiques des gouvernements d'alors, qu'on pourrait transcrire à aujourd'hui d'ailleurs, et de la réalité et de l'impact de ces politiques sur les personnes, individuellement ou collectivement, mais en tout cas sur les personnes. Donc un travail qui va se développer en organisant par des permanences d'accueil qui ont encore lieu aujourd'hui pour aider les personnes, les accompagner, les renseigner sur ce droit de plus en plus complexe. Et c'est aussi le moment, le début des années 80, où le scandale de l'enfermement des étrangers apparaît au plein jour avec la découverte du hangar d'Arenc dans le port de Marseille. Certains d'entre vous ont sûrement connu cette époque mieux que moi, parce que j'avais 6 ans à l'époque. Mais c'est une période où on découvre que, hors de tout cadre légal, l'État, à savoir la préfecture des Bouches-du-Rhône, enferme des centaines d'étrangers, au motif qu'ils n'auraient pas le bon papier, dans un hangar devant lequel s'arrêtent des bateaux, et des policiers vont les faire entrer de force dans ces bateaux, direction l'Algérie, la Tunisie, peu importe, parfois des pays dans lesquels les personnes n'ont même pas la nationalité, etc. Pour répondre à cette situation de crise, le gouvernement socialiste d'alors décide, pour clarifier les choses, de créer des centres de rétention administrative. C'est une réponse. On formalise l'enfermement d'étrangers. Alors c'est censé être une situation exceptionnelle. Exceptionnellement, l'État, à cette période, pourra enfermer des étrangers qu'il estime devoir reconduire à la frontière s'il pense qu'ils vont devoir fuir, etc. Et c'est vrai qu'à l'époque, et pendant 3-4 ans, ça va rester assez exceptionnel, puisque ce sera quelques centaines, mais c'est déjà sûrement trop, on aura sûrement ce débat tout à l'heure, vont être enfermés puis éloignés. quelques centaines. Aujourd'hui, on est à une vingtaine de milliers, une trentaine de milliers. On ne compte évidemment pas Mayotte ni la Guyane là-dedans, puisque ça doublerait, voire triplerait les chiffres. Donc, c'est le début de la rétention administrative. Et là, c'est pour ça que je faisais un petit laïus sur l'histoire de la CIMADE. La CIMADE est contactée pour savoir si elle est d'accord pour signer une convention avec le ministère des Affaires sociales pour intervenir dans ces lieux-là. Et la CIMADE, sous condition, estime que, elle décide que si ces conditions sont acceptées, elle interviendra. Ces conditions étant acceptées, à savoir qu'elle ait une liberté totale d'expression et de témoignage sur ce qui se passe, elle intervient donc, et c'est le début de l'intervention de la CIMADE dans ces lieux-là, qui va durer jusqu'en 2008, date à laquelle on va passer d'une intervention conventionnée à un marché public ouvert à la concurrence, comme on peut en connaître dans tout un tas de domaines, et dont on connaît déjà le schéma, déjà dans le domaine social, puisque déjà une dizaine d'années auparavant, au milieu des années 90, c'est le marché public des centres d'accueil pour demandeurs d'asile qui s'était ouvert, tout un tas de choses qui se sont développées, et on voit là déjà, c'est un autre débat, mais on pourra peut-être l'aborder, l'évolution des relations entre l'État et les associations, la vision qu'a l'État des associations, loi 1901, qui pouvait être porteuse de projets et qu'on utilise plutôt aujourd'hui, qu'on voudrait utiliser en tout cas, comme des prestataires de services. Fin de la parenthèse un peu longue. 2008, ouverture à marché public, et donc, long combat juridique sur lequel on pourra revenir, puisque la CIMADE estimait qu'on ne pouvait pas faire un marché. Cette intervention, qu'elle n'avait absolument pas vocation à intervenir seule si d'autres voulaient intervenir, mais que ça devait être en partenariat et non pas dans un cadre concurrentiel avec les dérives qu'on pourrait voir. Parce que la dérive, c'est laquelle? Pourquoi Hortefeux, en 2008, crée un marché public de la rétention? C'est qu'il se rend compte que c'est le début des objectifs chiffrés, des quotas d'expulsion, etc. Et on se rend compte en regardant les rapports statistiques que fait la CIMADE à la fin de chaque année. Elle fait un rapport statistique et ensuite très critique de la manière dont c'est mené, que plus de 50% des personnes placées dans ces lieux-là sont libérées du fait de l'intervention de la CIMADE, des liens avec les avocats, etc., etc. Donc ça lui a pas pris du jour au lendemain à Hortefeux. Il y a une volonté très claire de dire on va essayer de mettre une concurrence, de créer un marché. Et à terme, on le verra très bientôt, peut-être redonner le marché au plus offrant et à celui qui fera peut-être sortir le moins de personnes. Pour le moment, ce n'est pas le cas, mais en tout cas, l'objectif, il est clair. En parallèle à cela, donc, la CIMADE, c'est environ 80 salariés aujourd'hui, 3000 bénévoles. Donc, c'est essentiellement des bénévoles qui s'organisent au quotidien dans différents lieux assurer des permanences, renseigner les personnes, les accompagner en préfecture, faire des recours devant les tribunaux, etc., etc. Et organiser des actions de sensibilisation, répondre à des invitations comme ce soir, essayer de discuter de cette situation, parce qu'encore une fois, mais je pense que beaucoup d'entre vous le savent évidemment, il y a un vrai décalage entre la politique d'affichage relative à l'immigration et la réalité des situations des migrants, qui fait qu'on est toujours dans l'ordre du fantasme, de la peur, de la crainte, et que on ne règle absolument pas les vraies questions qui vont être évidemment bien plus complexes à résoudre que de renvoyer une personne qu'on va considérer comme sans papier chez elle ou vers un pays dont on estime qu'elle a la nationalité, à savoir... Mais évidemment, la problématique des relations nord-sud, la problématique des pillages de matières premières en Afrique, ou pas que de matières premières d'ailleurs, etc., etc. C'est sûr que c'est bien plus complexe de se poser la question à ce niveau-là que d'estimer, de dire si je renvoie les personnes, si je restreins leurs droits, eh bien elles ne viendront pas. Manque de peau, elles viennent, mais on les place en situation, pour le coup, d'irrégularité de fait. Puisque, à part quelques périodes depuis une trentaine d'années, mais de manière générale, et là, quels que soient les gouvernements, en fait, ces politiques obéissent à des fantasmes, et on en arrive donc à une restriction des droits constante, pour en arriver au projet de loi Besson, qui n'est pas une fin en soi d'ailleurs, mais qui est étudié en ce moment en deuxième lecture au Sénat, où on va en fait enlever tout critère de régularisation des personnes et instaurer en droit ce qu'on appelle le pouvoir discrétionnaire. C'est-à-dire que le représentant de l'État, localement, partout en France, décidera de qui il veut régulariser ou de qui il ne veut pas régulariser. Aujourd'hui, les critères de régularisation, ils existent pour 2-3 catégories de personnes. Très limitées. Pour le reste, le préfet a un total pouvoir d'appréciation, total entre guillemets, puisqu'en fait, il a au-dessus de lui le ministre qui lui dit « Tu me donneras tant de cartes de travailleurs cette année, tant de cartes de vie privée et familiale, tant de cartes, etc., etc. » C'est clairement comme ça que ça se passe aujourd'hui. Et en parallèle, la France est bien embêtée parce qu'elle est signataire de conventions internationales majeures comme la Convention de Genève qui régit le droit d'asile, donc elle est quand même obligée d'accueillir les demandeurs d'asile. Et donc elle va mettre en œuvre tout un tas de choses, mais ça se décide maintenant au niveau européen, pour empêcher ces demandeurs d'asile qui ont des droits de fait liés à la Convention de Genève pour venir s'installer en France et demander une protection. Elle va mettre en œuvre tout un tas de dispositifs, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est pour lancer des pistes, tout un tas de dispositifs pour empêcher ces personnes d'accéder à la procédure. Comme ça, s'ils n'accèdent pas à la procédure, ce ne sont pas des demandeurs d'asile et donc je n'ai pas à les prendre en charge. Donc voilà le contexte dans lequel on est aujourd'hui, sachant que le témoignage de ce qui se passe est d'autant plus important qu'on voit quand même depuis quelques années une évolution dans les fantasmes liés aux migrations, puisqu'on a très longtemps été dans l'étranger qui vient voler notre travail, l'étranger qui vient prendre notre place, le chômage c'est la faute aux immigrés, ils viennent et puis ils touchent la sécu, etc., etc. On était dans ce discours-là, et puis on voit quand même une évolution. Depuis quelques années, c'est plus l'étranger, c'est pas sa faute, mais comme il n'est pas comme nous, il vient troubler l'ordre social, il vient mettre en péril la cohérence nationale, notre identité. Je croyais qu'on ne captait pas, excusez-moi, je vais essayer de voir. Notre identité, etc. Et on voit que cette évolution des débats fait qu'aujourd'hui, plus que jamais, les témoignages, que ce soit de la CIMAD, mais de bien d'autres associations ou collectifs de personnes, comme il en existe à Rodez, hein, le collectif de soutien des sans-papiers de Rodez, avec la Ligue des droits de l'homme, etc., qui fait un travail en ce sens aussi. Enfin, cet exemple, parce que c'est à côté, mais il y en a un peu partout, les réseaux éducation sans frontières, hein, que vous connaissez sûrement. C'est d'autant plus important dans cette période où voilà, ce glissement quand même fait assez froid dans le dos, quand on le remet en perspective par rapport à cette histoire-là, et quand on le met en perspective avec un élément, je terminerai là-dessus parce que je crois que je suis un peu long, mais un élément majeur du projet de loi Besson, qui est, quand je vais vous le dire d'emblée comme ça, peut-être ne parle pas trop, mais le recul du moment d'intervention du juge des libertés et de la détention quand une personne étrangère est placée justement en centre de rétention administrative. Donc les centres de rétention, hein, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, ces lieux qui étaient 5-6 en 84, une trentaine aujourd'hui, où on place les étrangers qu'on veut éloigner. Aujourd'hui, la durée de rétention est à 32 jours, mais c'est le juge des libertés et de la détention qui va décider si l'État peut effectivement maintenir privé de liberté une personne, et ça elle va le faire au bout de 48 heures. D'accord ? Une personne est placée en rétention, le préfet, donc l'État, peut la priver de liberté pendant 48 heures sans problème, mais ensuite, c'est le juge des libertés de la détention, le garant des libertés individuelles en France. Hein, c'est pas pour rien qu'en France, il y a un système qui a été instauré de séparation des pouvoirs entre notamment le pouvoir administratif et le pouvoir judiciaire. C'est qu'à un moment donné, ces juges-là vont pouvoir estimé que l'État abuse ou n'abuse pas, mais en tout cas, il intervient très rapidement au bout de 48 heures. Dans le projet de loi Besson, on veut faire reculer cette intervention à 7 jours, en seconde lecture, là, à 5 jours. Alors, pourquoi est-ce si important ? Ben, il faut le mettre en rapport avec la réalité des chiffres. La réalité des chiffres, c'est que si la rétention peut être prolongée par un juge, pendant 32 jours maximum, 85% des expulsions ont lieu dans les 6 premiers jours. Ça veut dire que si la personne n'est pas expulsée dans les premiers jours, alors c'est essentiellement des raisons de convention entre États. Est-ce que l'État est d'accord pour accueillir la personne dans le pays vers lequel on veut la renvoyer? C'est dans les 6 premiers jours. Après, ça va être de la punition, purement et simplement. Mais on voit bien là, à ce moment-là, l'enjeu de faire reculer l'intervention du juge des libertés à 5 ou 7 jours. C'est-à-dire que ce juge des libertés qui va regarder comment s'est fait interpeller la personne, est-ce qu'on l'a interpellé au faciès, parce que, vous savez, c'est illégal. Donc on trouve des subterfuges, mais c'est illégal. Mais si le juge intervient au bout de 5 jours que la personne est interpellée dans les 3 premiers jours, c'est la porte ouverte à tous les abus, à prendre la première personne qui n'a pas la bonne couleur de peau dans la rue, de vérifier qu'elle n'a pas de papier, et de l'expulser, on aura beau au jeu ensuite de passer devant le juge des libertés, la personne elle sera déjà bien loin. Et ça, quand même, ça interroge sur les pratiques, et sur le sens, et sur la dérive. Je ne suis pas dans le délire de l'État policier, je suis plutôt du côté de l'État de droit, et là, en l'occurrence, je n'ai pas l'impression de reconnaître un État de droit quand on essaie de faire reculer l'intervention du juge judiciaire pour pouvoir expulser tranquille face à tous les abus. Je ne sais pas si c'était très clair, mais c'était pour montrer les enjeux dans quelle évolution on était. Ça pose pas mal de questions, mais je ne veux pas trop monopoliser la parole et peut-être qu'on...
Donc si vous voulez, on va donc reprendre le débat. Et donc toutes les questions que vous vous posez, vous pouvez les poser dans le cadre de la discussion qu'on va avoir. Allez-y. Donc si vous avez quelque chose à rajouter vous-même l'un ou l'autre, bien entendu. Oui.
C'est tout le problème. Alors, pour être tout à fait complet, quand une personne est placée en rétention, il va y avoir deux juges de saisie, en fait. Si la personne, il y a une décision administrative d'éloignement qui est prise par le préfet, et une décision administrative de placement en rétention, de privation de liberté. Cette décision de privation de liberté, elle va passer devant le juge des libertés de la détention, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, et la décision administrative d'éloignement va pouvoir être contestée devant le juge administratif. Alors, si vous êtes encore dans un délai de recours possible devant le juge administratif, vous ne pourrez pas être éloigné tant que vous n'êtes pas passé devant ce juge administratif. D'accord ? Mais énormément de gens qui sont placés en rétention ont des mesures qui sont déjà définitives, en fait. Soit parce qu'ils ont déjà perdu devant le juge administratif alors qu'ils n'étaient pas enfermés, soit qu'ils n'ont pas contesté la décision pour des raisons X ou Y. Et donc, c'est là aussi que l'importance du juge des libertés sur la question de la privation de liberté est assez fondamentale. Donc, mais très clairement, on en arrive à l'aberration que vous évoquez. C'est vrai que j'ai été assez clair, mais enfin, je suis content. C'est qu'on peut expulser sans passer devant le juge. C'est deux procédures distinctes, si vous voulez. Il y a deux décisions qui sont attaquées. Il y a une décision qu'on va dire sur le fond, sur est-ce que l'État a le droit d'éloigner cette personne. On va regarder sa vie privée, etc. Et l'autre décision attaquée, c'est est-ce que l'État a le droit de priver de liberté cette personne. D'accord ? C'est deux procédures différentes, si vous voulez. Et pour beaucoup de personnes qui arrivent en rétention, les délais de recours sur le fond, sur la décision d'éloignement, sont déjà passés ou confirmés, etc.
Quels sont ces délais de recours ?
Alors, ils sont très divers, hein. Il y a beaucoup de mesures, ça dépend. Ils sont en gros soit d'un mois sur les obligations de quitter le territoire français et de 48 heures pour les... arrêter de recours. Ben, l'intervention, elle est essentiellement assurée par des bénévoles, hein, puisque je disais c'est 3000 bénévoles et 80 salariés. Donc sur la région sud-ouest, par exemple, on a 11 groupes locaux, il y a 3 salariés, il y a 300 bénévoles. Donc c'est essentiellement des groupes bénévoles qui sont formés, qui vont recevoir les personnes et leur expliquer le contexte. D'abord, c'est une écoute. C'est déjà assez important parce que cette écoute-là, ils ne l'ont pas forcément, ils l'ont dans d'autres types de collectifs. Mais ils n'ont pas, s'ils vont se renseigner à la préfecture, ça va être rentrer chez vous. Hein. Donc le service public n'est pas forcément très bien rendu dans les préfectures. Donc du coup, on va informer les gens sur leurs droits et les accompagner s'ils le souhaitent ou s'il y a une possibilité aussi, si on n'est pas en situation de risque, hein, sur des procédures, donc des dépôts de dossiers, des recours, etc. etc. Sur la question du salariat, aujourd'hui, donc c'est 80 salariés, ça doit être c'est 50 dans le cadre du marché de la rétention. Donc le marché de la rétention, c'est évidemment un financement d'État, d'accord ? Dans le cadre du marché. Ça représente 22% du budget global de la CIMAD. La grosse, un peu plus de, en gros, 52% du budget de la CIMAD, c'est les dons. C'est à peu près 2 millions d'euros annuels de dons. C'est ça, en fait, qui nous permet de voir venir, de, au fur et à mesure, garder des choses, parce qu'on sait que, notamment depuis la réforme, dans le cadre de marché de la rétention, que soit on va se faire foutre dehors parce qu'on ouvre trop, soit parce que de toute façon ils ne réattribueront pas le marché parce que la volonté c'est qu'on sorte de toute façon. Mais donc il y a des réserves qui sont constituées grâce à ces dons, c'est pas sans impact social à l'interne après, hein. Mais on a des marges de manœuvre à ce niveau-là grâce à un socle donateur qui est assez important en fait. Et le reste étant des subventions de collectivités locales. Ben, un marché public, c'est donc il y a un appel d'offres. En l'occurrence, un appel d'offres. Du ministère à l'époque de l'immigration et de l'identité nationale sur l'intervention citoyenne en centre de rétention. Non mais c'est ça, il ne faut pas se leurrer, quoi. Mais c'est pour ça tout à l'heure que j'avais prévenu, que j'avais pris un temps sur l'histoire de la CIMAD. Parce que vous imaginez bien qu'au moment de se dire à l'interne est-ce qu'on y va, est-ce qu'on n'y va pas. Est-ce qu'on ne vend pas notre âme quand on va signer un marché public, rentrer dans ce jeu-là avec le gouvernement ? Il y a eu deux camps, hein, très clairement. Mais c'est clair que le camp de ceux qui ont dit on ne s'est pas posé ces questions-là, qu'on intervenait dans les camps en 1941, et c'était autrement plus compliqué les relations avec le régime de Vichy, et on savait pourquoi on y allait. On n'est pas resté longtemps, mais on savait pourquoi on y allait dans les camps. Et aujourd'hui, on sait pourquoi on y va, on sait pourquoi on sera foutu dehors, mais on a décidé d'y aller, voilà. Donc après, ça peut être soumis à toutes les critiques, hein, ça je peux les entendre. En tout cas, nous, on sait pourquoi on y va. C'est-à-dire, pour toujours dire, pour critiquer de l'intérieur ce qui s'y passe, et faire sortir la parole. Parce qu'il n'y aurait rien de plus dramatique que des gens interviennent là-dedans, ferment leur gueule, et qu'on ne sache plus jamais ce qui se passe dans ces lieux d'enfermement. C'est notre position, il y en a d'autres.
Tu passes.
Est-ce que tu pourrais développer un autre aspect de l'action de la CIMAD qui est moins connu, c'est-à-dire en fait l'accompagnement des étrangers dont l'expulsion n'a pas été évitée. Qu'est-ce que vous faites dans les pays comme accompagnement ? Il y a aussi ce volet. Hein,
oui, alors c'est un volet, c'est un partenariat, un service en fait solidarité internationale à la CIMAD. Qui travaille donc en partenariat avec des associations au Mali, au Burkina, en Mauritanie, dans différents pays d'Afrique, notamment sur le devenir des personnes expulsées, mais pas que des personnes expulsées, des personnes en transit, puisque on sait évidemment que avec la fermeture des frontières, en tout cas avec la fermeture politique des frontières, et pas que politique, militaire d'ailleurs, hein, puisqu'on envoie des bateaux intercepter les barques, etc. Il y a des zones de non-droit un peu partout dans des pays dits de transit, comme l'Algérie, la Libye, le Maroc, où énormément de populations qui viennent de pays subsahariens ou d'Afrique de l'Ouest vont se retrouver dans des espèces de no man's land juridique, etc. Et où l'Union européenne va carrément financer la formation de la police, la formation de l'armée sur comment intercepter plus facilement et créer des zones d'enfermement pour ces personnes-là dans ces zones-là. Donc il y a un travail qui se rend plus vers du plaidoyer en fait aujourd'hui, parce que très clairement, techniquement, c'est hyper compliqué, mais sur une sensibilisation sur place, mais c'est relativement compliqué. Et savoir ce qui s'y passe, en tout cas ce qui s'est passé ces dernières années, et puis là, quand celui-là sera sorti, sur le site de la CIMAD, donc c'est cimad.org, vous avez notamment les rapports des années précédentes, donc avec l'ensemble des données et nos critiques sur ce qui s'y passe. Donc, après, c'est clair que c'est pas un outil qui est facilement diffusable sur un grand public, parce que c'est une espèce de pavé avec des choses quand même, une analyse politique évidemment, mais après beaucoup d'analyses juridiques, d'analyses statistiques, etc. Mais en tout cas, il y a beaucoup d'analyses politiques quand même dedans. Quoi. Donc ça, il ne faut pas hésiter à aller sur le site pour le consulter.
Déjà. Bon, je sais que tu n'es pas dans les centres, mais tu dois quand même avoir une idée. Qu'est-ce qu'ils font les gens dans les centres? Est-ce qu'ils ont des moyens? Parce qu'en théorie, c'est pas une prison. Quelle est la différence pratique? Et d'autre part, qu'est-ce qu'ils font de leur journée?
De leur journée, ils gambergent.
Non, parce que... Est-ce qu'il y a des journaux, par
exemple? Oui, alors après, il y a des journaux, il y a la télé, il y a...
voilà, mais... il y a un poste pour 50 personnes.
Non, mais pas forcément, il y a des... Enfin, c'est pour ça que nous, dans nos témoignages, contrairement peut-être à d'autres, on va pas se... La question de... Évidemment que la question des conditions d'enfermement, elle a son importance, mais pour nous, c'est pas un combat en soi. Ils pourraient être enfermés dans des hôtels 5 étoiles... rien à foutre, c'est le principe même d'enfermer ces personnes-là qui pose problème en notre sens. Donc, si tu veux, les conditions, prenons le centre de rétention de Cornebarieux, c'est un centre de rétention tout à fait récent, qui effectivement, ils ne sont pas plus de 2 par chambre, dans des lits douillés, il y a une cour qui donne sur les pistes, donc ça fait du bruit, mais il y a une cour où tu peux y aller quand tu veux, etc. La bouffe n'est pas dégueu, etc. Mais c'est pas. Enfin, c'est pas le problème n'est pas là. Quoi. Donc il y a plus d'une télé pour 50. Mais très franchement, personne ne pense à autre chose qu'à regarder la télé. Quoi.
Donc, et, c'est une privation de liberté.
Voilà. Donc. Après, il y a de moins en moins en fait, de lieux comme on est parti d'Arenc, des zones complètement sordides, etc. Il y a des lieux où mais l'enfermement en soi, il est dramatique psychologiquement dès le départ. Enfin, on a des personnes qui ressortent de là complètement bouchées, quoi, et qui ne seront pas récupérables. Hein. Quand tu disais tout à l'heure, j'étais très sensible à ce que tu disais, quand tu disais « je suis quelqu'un de calme et un jour on m'a fait péter les plombs », un quart d'heure on m'a fait péter les plombs, on voit des personnes... plus fragiles ou même pas plus fragiles, c'est pas la question, qui seront pas récupérables. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des personnes qui sont enfermées, je vous disais tout à l'heure, s'ils ne sont pas expulsés les 6 premiers jours, on va les maintenir 32 jours pour leur faire comprendre qu'on ne veut pas de là. Et si on n'arrive pas à les expulser, dans le meilleur des cas, on va les laisser sortir avec un papier en disant « Je n'ai pas réussi à vous expulser, moi, représentant de l'État, je vous demande de quitter le territoire par vos propres moyens dans un délai de 7 jours. Donc je vous demande d'enfreindre la loi. » Parce que moi-même, représentant de l'État, je n'ai pas réussi à la faire appliquer. Et si on ne vous donne pas ça, et on le voit, ça se systématise, on va vous poursuivre au pénal, comparution immédiate, pour obstruction à une mesure d'éloignement. on va dire, vous avez volontairement dissimulé votre identité, vous avez volontairement nié que vous avez un passeport, et vous allez prendre 3 mois de prison ferme, vous allez faire un aller-retour à Seis, vous allez y rester 3 mois, et au retour, vous allez repartir en centre de rétention, on ne pourra pas vous expulser. S'il y a un juge un peu du genre qui dira « bon, ça suffit, je sors », mais on a vu des personnes qui ont fait 3 allers-retours, par exemple, quand la personne, elle sort de là. Je vous laisse imaginer le... Et ça, parce que la personne n'a pas un papier, quoi. Enfin, n'a pas un papier. Alors après, on peut penser ce qu'on veut. Le débat est ouvert sur ouverture des frontières, pas ouverture, contrôle, d'immigration, etc. À la limite, moi, je veux bien débattre de tout, mais s'il y a une chose sur laquelle c'est absolument pas négociable, c'est de criminaliser ces personnes.
Et à Rodez, il y a des cas comme ça, hein. Il ne faut pas penser que c'est loin. Hein.
Bien sûr.
À Rodez, il y en a des gens qui sont passés 3 fois en centre de rétention, qui sont allés en prison, qui sont interdits de séjour, qui ont une interdiction de séjour et qu'aucun pays ne veut et qu'on ne peut, on régularise pas. Et qu'on ne peut pas expulser. C'est quand même incroyable. Je ne sais pas comment ils tiennent le coup encore moralement, ces gens.
Donc il ne peut pas y avoir de mesure d'enfermement pour les mineurs.
Si. Si. Non, 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 non. Ah. Juridiquement, non. Mais c'est un subterfuge juridique. C'est-à-dire qu'effectivement, un mineur ne peut pas être. N'est pas en situation irrégulière, donc ne peut pas être enfermé pour absence de papier, puisqu'il n'a pas à en avoir. Sauf que, dépendant du statut de ses parents, eh bien, on va dire soit tu vas avec papa-maman, soit on te place.
Et on les retrouve dans les centres de rétention.
Oui, oui, hein, oui. Alors,
on retrouve toute une famille, des 5-6 personnes, femmes et enfants, et papa.
Et là, ils sont pas scolarisés.
Je peux vous livrer un chiffre en avant-première, super. C'est en 2010 à Cornebarieux, c'est 27 enfants qui ont été privés de liberté, dont une 5 de moins de 5 mois. Donc certains vont passer 32 jours derrière si.
Et il n'y a pas de possibilité de recours administratif pour dire les enfants sont avec leurs parents, donc les parents sortent pour que l'enfant soit scolarisé. Ce serait trop beau.
Et après, il y a un combat juridique là-dessus, mais il n'est pas.
Autant que si vous avez fait 5 ans et que vous renouvelez vos papiers pendant 5 ans, vous avez droit au RSA.
Ou pas avant.
Mais pas avant.
C'est pas 5 ans clandestin, 5 ans avec des papiers.
Oui, le statut de réfugié, en fait, il est livré par l'OFPRA. On en parlait tout à l'heure, l'Office français de protection des réfugiés à Batrida, qui est un organisme indépendant placé sous tutelle du ministère de l'Intérieur, qui délivre donc ce statut. Si vous avez, si vous obtenez la protection, cet organisme-là n'est pas habilité à aller au-delà. Il dit oui, je vous accorde la protection de l'État français, donc maintenant vous dépendez, en termes d'État civil, etc., de l'OFPRA. Et donc, avec votre accord, vous allez en préfecture et là on va vous délivrer directement une carte de 10 ans. Effectivement, le contexte du pays d'origine ne suffit pas en soi. C'est une étude individuelle. Après, il y a une vraie dérive en matière de droit d'asile en France, mais un peu partout en Europe. C'est cette notion de preuve. La preuve n'a même pas à exister dans le droit d'asile, puisque je vais vous citer la Convention de Genève, qui est transcrite telle qu'elle dans le droit français. Donc, c'est une convention internationale ratifiée par le Parlement français et donc qui s'applique en France. Et qui stipule que, alors je ne vais pas rentrer dans les détails, mais le statut de réfugié est accordé à toute personne qui craint, avec raison, d'être persécutée dans son pays. Qui craint avec raison. La crainte n'implique pas en soi, et ça a été jugé d'ailleurs, la crainte n'implique pas en soi qu'on ait été persécuté. Elle implique qu'on craint d'être persécuté. Et très souvent, les personnes arrivent, beaucoup arrivent après avoir vécu effectivement de terribles sévices, etc. Mais d'autres, heureusement, ont réussi à y échapper à temps. on ne va pas pouvoir exiger des preuves à ces personnes de choses qui ne sont pas arrivées. Et pourtant, il y a une vraie dérive, y compris dans l'instruction des dossiers. Alors c'est pour ça qu'on gagne plus souvent le statut à la Cour nationale du droit d'asile, qui est le tribunal administratif qui juge exclusivement les refus d'asile. Mais il y a une véritable dérive, et puis qui s'inscrit un peu, on dit, tiens, mais si tu pourras le prouver, tu ne pourras pas demander. Non, ce n'est pas une question de preuve, c'est une question de convaincre la personne qu'on a en face. C'est hyper subjectif.
Oui, il faut savoir qu'il n'y a que 17% d'accord entre l'OFPRA et la CNDA. C'est-à-dire, la CNDA, c'est la commission des recours.
Non,
pas d'accord.
Non, c'est
32%. Ah bon, alors excusez-moi,
je t'ai dit. 17, c'est en première instance.
À l'OFPRA.
Et est-ce que l'OFPRA a des quotas, puisqu'il est sous dépendance officiellement?
Non, après je disais, attention, mais je disais de manière un peu ironique, organisme indépendant sous tutelle, il est sous la tutelle, il n'est pas complètement indépendant. Après, tous les officiers de protection qui reçoivent les personnes ne sont pas des méchants qui ont pour seul but de tout faire pour ne pas vous accorder le statut. Ça serait malhonnête de ma part que de dire ça. Ce serait malhonnête aussi, je pense, de dire qu'il y a des quotas. Parce que, objectivement, quand on étudie réellement la question, on n'est pas en mesure de le prouver, donc ça serait assez malhonnête de le dire. Après, qu'il y ait des pressions, oui, évidemment. Mais la question, elle se joue bien avant. Tout à l'heure, je disais, on est lié par cette convention. Donc tout ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer d'empêcher les gens de pouvoir demander cette demande d'asile. C'est là l'enjeu, en fait. Hein. Pourquoi quand un bateau de Kurdes syriens s'échoue en Corse, sur les plages de Corse, on va essayer, le ministère va essayer, plutôt que de dire on va vous mettre dans des centres d'accueil pour demandeurs d'asile pour que vous puissiez faire votre demande d'asile et qu'on l'étudie, pourquoi il y met un centre de rétention, il tente le coup pour essayer de les expulser? C'est bien évident pour ces personnes, il n'est pas l'opportunité de demander l'asile et passer outre cette convention de Genève. L'idée, elle est systématiquement de régler ça en amont.
Et administrativement et pas juridiquement.
Oui, tout à fait. Voilà.
La Cour internationale des droits de l'homme, elle joue un rôle, déjà, ou pas?
Non, alors, il y a la Cour de justice des communautés européennes qui peut rendre des décisions. C'est une cour qui peut être saisie après avoir épuisé toutes les voies de recours en droit interne. Donc c'est particulièrement, mais la plupart du temps, c'est des arrêts de principe qui vont être pris, qui ont leur importance. Mais ça ne règle pas des cas individuels, ça va faire de la jurisprudence qui va permettre à d'autres personnes d'en profiter après. Mais après, la France est régulièrement condamnée. Pour diverses atteintes.
Plus que d'autres pays?
Je ne pourrais pas vous dire, je ne sais pas particulièrement. Après, en Europe, la France, très clairement, c'est pas le, en matière d'enfermement. Après, ça a tendance à s'uniformiser, mais la France, par exemple, l'enfermement administratif est toléré est possible jusqu'à 32 jours, vraisemblablement 45 après le vote de la loi Besson. Il faut savoir qu'en Allemagne, c'est 18 mois, et qu'à Malte, c'est illimité. Donc, après, on peut faire un jeu de comparaison en disant on est mieux loti, mais enfin, au bout du bout...
Oui. Et vous avez dit que la France est régulièrement condamnée. Elle est condamnée à quoi? Et qu'est-ce que ça change pour la suite?
Elle est condamnée à deux niveaux. Soit parce que sa législation interne n'est pas en conformité avec le droit européen, et la Convention européenne des droits de l'homme. Dans certains cas, c'est quelque chose qui arrive. Alors, le problème, c'est qu'après, c'est hyper juridique. Alors,
mais est-ce que ça fait changer les choses, le
fait que... Oui, ça fait changer les choses. Par exemple, là... Actuellement, la France n'y a pas transposé à temps une directive européenne de 2008 qui permettait, sur toute mesure d'éloignement, on doit proposer un délai de départ volontaire. C'est-à-dire que quand vous faites signer à quelqu'un un arrêté d'expulsion, vous devez lui permettre un délai entre 7 et 30 jours où il a le choix de partir de lui-même. N'existant pas sur certains types de les arrêtés préfectoraux de reconduite à la frontière, tous ces arrêtés là, de janvier à février ont tous été annulés, par exemple. Il y avait notamment avec une décision de la Cour de justice européenne. Mais ça peut, après, c'est sur des cas individuels qui vont faire jurisprudence, mais qui vont faire jurisprudence sur des, ce qu'on appelle des cas d'espèce, en fait. C'est-à-dire, il faut, si une personne est exactement dans la même situation, c'est quand même assez rare, en fait, elle pourra se prévaloir de ça. Mais, donc, ça a son importance, mais. C'est un débat juridique qui n'est pas forcément, en fait... Après, il y a des condamnations de principe. Il y a des condamnations de principe, mais qui n'obligent à rien. Par exemple, la Cour a condamné, il y a 3 ans de ça, la France, en disant, mais pas que la France d'ailleurs, en disant l'enfermement des enfants, la venue de moins de 12 ans, je ne sais pas quoi, constitue un traitement inhumain et dégradant. Voilà, mais ça s'est arrêté là. C'est pas quelque chose qui oblige. Oui, les demandes d'asile, en fait, pour 2010, ça sera vraisemblablement entre 30 et 40 000 demandes.
Entre 30 et 40 000. Et les demandes de papier.
Ah, alors,
faut vous... avoir ça. Hein?
Si, vous appelez le ministre et vous le direz.
Lui qui l'a chargé des
gens
de police.
Qui de
demander
ça,
justement, je vous dis. Ben là, c'est encore plus compliqué,
évidemment. Ça a été évalué, ça.
Oui, c'est évalué autour de 400-500 000 personnes, quoi, mais.
On doit dire qu'on peut, avec Momo, dans le cadre du collectif de Rodez, il y a eu des demandes de régularisation. Pour pouvoir avoir. Pour que les gens se signalent à un collectif de sans-papiers. Là, ce n'est pas CIMAD, ce n'est pas des organismes comme ça, c'est un petit collectif rue Ténois, une autre ville. Avant que les gens fassent la démarche, comme Momo a pu faire avec d'autres, de dire je suis sans papier et je veux apparaître sur la place publique en tant que sans papier, et la France, n'importe quel pays, me doit, entre guillemets, doit faire quelque chose pour moi, il faut déjà qu'ils soient costauds, les personnes, pour aller faire cette démarche. Alors, il n'y a pas de secret. Quand on en recevait 10, on savait qu'il y en avait 10 qui ne se signalaient pas pour dire j'ai pas de papier. On l'estimait, on savait que. On se demandait même pourquoi ils ne venaient pas. Il y avait des. On n'avait pas de chiffres, on savait que les gens. Tout le monde ne vient pas se signaler sans papier.
Ah oui, parce que les gens ils ont peur. Quand on sort, est-ce que je vais rencontrer des flics qui vont mettre les menottes de suite? Parce que quand on me demande les papiers, j'en ai pas. Je me retrouve au commissariat, et du commissariat, le jour même, je me retrouve dans un centre de rétention. Mais avant que le tribunal administratif ne statue sur son sort, et ils ont toutes les possibilités de vous faire renvoyer dans un pays où ils ont des conventions. Donc c'est pour ça que les gens ils n'osaient pas se signaler.
Pour dire un peu la galère aussi des sans-papiers. Et vous prenez un sans-papier il y a une dizaine d'années de ça, de Momo et d'autres, vivant chez des loueurs d'appartements, si on peut appeler ça des appartements, c'est-à-dire pas très salubres. Bon d'accord, les mecs ne payent pas, ils n'ont pas d'argent. Donc le bailleur, il va les laisser un petit moment, parce qu'il ne peut pas faire autrement. Il leur faut quand même l'électricité, ils n'ont pas d'argent pour la payer. Donc des démarches pour faire mettre un compteur minimum. Sachant que EDF n'a plus le monopole de l'électricité, les autres entreprises qui vendent de l'électricité n'ont pas forcément les mêmes obligations envers ces personnes-là. Là où on avait une possibilité de faire mettre un compteur à 2 kW minimum, qu'ils aient au moins la lumière, voire un frigo ou un truc comme ça, une autre compagnie d'électricité n'aura pas forcément actuellement la même entre guillemets, gentillesse, les mêmes devoirs publics.
Les mêmes devoirs.
Donc les difficultés, pour en parler bien mieux que moi, c'est galère et ça ne s'arrange pas.
Bon, avant, la majeure partie, le gardait pour eux. Moi, je le gardais tout le temps pour moi. Parce qu'il y a sortir, dire, ah, vraiment, aidez-moi, j'ai pas ça, aujourd'hui, avant, je passais une journée entière, sans même boire un café. Mais j'ai trouvé qu'il ne fallait pas faire ça. Il fallait sortir. Déjà, tu n'as pas de papier, d'accord. Mais tu restes foiré dans la maison, tu n'as pas de quoi manger, de quoi faire nourrir ta petite famille. C'est autre chose, c'est encore plus dur. Donc on est obligé d'aller voir les collectifs, les volontés, le CCAS, les assistants sociaux. On est obligé de passer partout, partout pour faire souvenir aux besoins de notre famille. Vous êtes dans un logement. Moi j'ai fait 2 ans sans payer de loyer. Heureusement que le propriétaire il était hyper cool. Il a compris ma situation, la situation dont j'avais, il a vite compris. Et il ne pouvait pas faire autre que de me laisser chez lui. Il pouvait m'expliquer.
Il y a des familles qui existent dans certaines villes. Ça a pu se faire à un moment sur Toulouse. Par exemple, des policiers qui, par hasard, font des interpellations près de certains lieux gérés par les CCAS. Voilà, mais non, on ne peut pas dire que... non, pas encore. Il y a des tentatives, après, de... Vous avez là, récemment, à Toulouse, des salariés de la CPAM qui ont manifesté parce qu'on leur demande de vérifier les papiers d'identité, etc. Donc il y a des tentatives, si vous voulez, de faire un travail de police à des organismes publics ou parapublics. Mais là, après la collusion de fichiers, etc. Théoriquement, c'est interdit en France le partage de fichiers.
Pas de cas de négociation.
Si. Après, je crois que le poids de l'histoire joue quand même son rôle, c'est-à-dire que les juges ont du mal à maintenir par exemple un placement en rétention d'une personne quand on voit sur le préavis d'interpellation que appel anonyme a fait qu'on est intervenu, etc.
Ça rappelle le...
Ils ont un peu de mal, donc en général c'est annulé quand même. Mais c'est des choses qui se développent, et y compris on a il y a quelques années, sur Toulouse, mais pas que d'ailleurs, il y avait eu quand même une certaine pratique, et je pense que ça se fait encore, mais moins parce que c'était vachement annulé. Il y avait énormément d'appels anonymes, enfin, énormément après de proportions gardées, de dénonciations de travailleurs sur des chantiers, comme par hasard, entre le 20 et le 30 de la fin de chaque mois. Donc, l'employeur, il met son petit mouchoir, il appelle la préfecture. Et ça s'est fait quand même dans des proportions quand même assez importantes.
Il y a une loi qui permet de renvoyer les migrants dans le premier pays où ils sont rentrés dans l'Union européenne. J'ai entendu parler d'une loi comme ça.
Les demandeurs d'asile.
Les demandeurs d'asile.
Donc c'est le règlement Dublin 2, qui est le règlement qui détermine l'état de l'Union européenne responsable de la demande d'asile d'un demandeur d'asile. Si quelqu'un arrive en France et qui demande un titre de séjour, ne demande pas l'asile, il a beau être passé par n'importe quel pays, l'État français est obligé d'étudier sa demande. Mais s'il sollicite l'asile, effectivement, c'est le premier pays par lequel il est rentré, ou le pays qui aurait délivré un visa, mais c'est extrêmement rare que des demandeurs d'asile aient obtenu un visa. Donc, en soi, ce ne serait pas complètement incohérent s'il y avait des règles d'études du droit d'asile homogènes au niveau européen, puisque effectivement, voilà, si tous les demandeurs d'asile arrivent à un endroit, ça peut être, ça peut créer, on peut pas forcément les accueillir dans de bonnes conditions, etc. Pourquoi pas? C'est un peu, si on règle, si on élabore d'un point de vue très strict le fait de pouvoir quand même le demander dans l'endroit où on a sa famille, par exemple, et si on n'a pas de famille, effectivement, si c'était traité de manière cohérente. Mais le problème, c'est que vous avez des pays, comme par hasard, qui sont les derniers remparts de l'Europe, à savoir la Pologne et la Grèce. La Pologne par laquelle passent la plupart des Tchétchènes, la Grèce par laquelle passent la plupart des Afghans, des Iraniens, des Irakiens, etc. Le droit d'asile n'est absolument pas respecté. C'est-à-dire que c'est un enfermement systématique des demandeurs d'asile, une étude à minima des droits. En Grèce, en 2009, c'est 59 000 demandes d'asile, 0,04% d'accord. Donc on peut imaginer qu'il y ait peut-être au mieux quelques fausses demandes, de là à ce qu'il y ait 96% de fraudeurs, ça pose question. Et c'est pas pour rien d'ailleurs que c'est Portefeu avant de partir qui a dit bon, on va arrêter de renvoyer en fait dans le cadre de ce règlement les gens vers la Grèce parce que la Grèce est condamnée là très régulièrement pour atteinte au droit d'asile. Donc, mais ça pose quand même des problèmes. On renvoie vers la Pologne, etc. Mais c'est pour les demandeurs d'asile spécifiquement.
Concrètement, la semaine prochaine à Odesse, 10 familles vont passer devant l'avis de réadmission en Pologne. Ce sont des Tchétchènes, majoritairement. Alors on fait tout ce qu'on peut pour éviter que ça se passe, mais ça va être très compliqué de l'éviter. Donc concrètement, ce règlement-là...
Par contre, il met la France dans une situation relativement inconfortable. Parce que c'est difficile, quand on vient d'un pays de l'Est, d'arriver en France sans traverser un pays de l'espace Schengen.
En fait, l'enjeu pour les demandeurs d'asile, c'est de traverser sans vraiment sans se faire interpeller, puisque vous avez un fichier qui s'appelle Eurodac, au niveau européen, qui est le fichier de prise d'empreinte des demandeurs d'asile. Et en fait, c'est systématique en Grèce, en Pologne, etc. Les personnes arrivent, on prend les 10 empreintes, les poignets, etc. C'est sur un fichier. Vous allez en préfecture à Toulouse ou à Montauban, c'est les deux bornes qui existent dans la région. Pour Rodez, ils vont à Montauban. Un demandeur d'asile qui arrive à Rodez, on va l'envoyer à Montauban pour se faire prendre les empreintes. Et après, on va savoir s'il est allé. Malheureusement, en dernier lieu, le Conseil d'État, il a tranché sur la question des empreintes illisibles.
Oui.
Et c'est pas favorable, c'est-à-dire qu'en gros, après ça dépend de la situation particulière, oui. Peut-être pas, mais si c'est.
C'est des gars qui lui redemandent.
Ouais. Ils vont pas pouvoir entamer la procédure.
Il y a des gens qui brouillent leurs empreintes, non?
Ah oui,
il y a même c'est pour ça qu'en fait le Conseil d'État a tranché là-dessus, c'est que ça arrivait à de tels. Les gens voulaient.